une loi pour mieux assurer la liberté des sujets et pour la préservation des emprisonnements outre-mer. Présentation de l'habeas corpus de 1679.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le XVIIe siècle anglais a été un siècle remuant sur le plan politique. En effet, en 1640, une guerre civile a éclaté entre les partisans du Parlement et les partisans du roi Charles Ier. Et finalement, celui-ci a perdu ce conflit. Il fut jugé et, horreur pour l'Europe monarchique du XVIIe siècle, sa tête a roulé sur le billot en 1649. Les années 1650 n'ont pas apporté du tout la tranquillité et la stabilité espérées, puisque Cromwell au pouvoir a instauré une espèce de république autoritaire très personnalisée autour de lui. Et à sa chute, les élites anglaises ont finalement préféré revenir à une restauration des Stuarts en la personne de Charles II, fils de Charles Ier, qui est donc redevenu roi d'Angleterre. Mais fondamentalement, la question des relations entre le Parlement et la couronne n'avait pas été tranchée. De plus, il y a eu un autre débat qui existe en Grande-Bretagne depuis le XVIe siècle, c'est la place à laisser ou à ne pas laisser au catholicisme. Or, tout royaliste qu'il était au début des années 1660, le Parlement était tout de même intrigué, voire inquiet, par deux aspects de la politique menée par Charles II. D'abord, la politique extérieure, jugée trop française. Charles II recevait des subsides de Louis XIV et il avait en plus accepté de céder, contre paiement, le port de Dunkerque au royaume de France. Et il avait entrepris de mener une alliance contre les Hollandais. D'autre part, Charles II penchait vers le catholicisme et il voulait supprimer des lois contre les catholiques. Pour faire accepter plus facilement cette mesure, il promulgua une déclaration d'indulgence par laquelle il suspendait de sa propre autorité, donc sans l'accord du Parlement, les lois dirigées contre tous les non-anglicans. Mais la haine du papisme, pour reprendre l'expression utilisée à l'époque, était si forte chez une partie des anglicans, mais également des puritains, ces dissidents protestants, que ceux-ci repoussèrent la tolérance et ne voulaient pas voir les catholiques profiter de cette politique plutôt favorable. Aussi, le Bill du Test, c'est-à-dire la loi de l'épreuve de 1673, votée par le Parlement, faisait que pour être fonctionnaire ou député, il faudrait désormais jurer qu'on repoussait l'autorité religieuse du pape, le culte de la Vierge, des saints et le sacrement de l'Eucharistie. Les catholiques au service de l'État furent contraints de démissionner et le frère du roi, le duc d'York, converti au catholicisme, avait dû se démettre de sa charge de grand amiral. Or le problème, c'est que Jacques, duc d'York, était l'héritier de son frère Charles. Donc allait se poser peut-être la situation suivante, une Angleterre massivement protestante allait-elle avoir un roi catholique ? De nombreux députés demandèrent que le duc d'York fût écarté du trône. Mais les élites anglaises se sont divisées sur cette question, car même si l'Église d'Angleterre était favorable au maintien du catholicisme dans une sorte de zone seconde, les ecclésiastiques et l'Église établie étaient très défavorables à l'idée que l'on pouvait bouleverser l'ordre de succession. Par contre, les adversaires de la monarchie autoritaire de Charles Ier et de Charles II estimaient qu'il fallait au contraire essayer de tout faire pour ne pas voir un roi de tradition catholique monter sur le trône. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le Parlement a voté en 1679 une loi, l'habeas corpus, qui visait justement à contrôler tout autoritarisme royal. Or, en 1682, Charles II décède. Son frère Jacques, monte sur le trône, mais celui-ci allait se montrer à la fois imprudent et sans doute trop agressif vis-à-vis de la tradition parlementaire. En effet, Jacques II voulait ramener le pays au catholicisme. Il suspendit le Bill du Test, rappela les jésuites, reçut à Londres en grande pompe un légat du pape, installa des prêtres catholiques dans les paroisses anglicanes, des professeurs catholiques dans les universités, et ainsi il espérait faire remonter l'influence catholique dans le royaume. Or, la grande majorité de la nation était sans doute opposée à la politique du roi, et il suffisait d'ailleurs, aux yeux de ses adversaires, d'attendre que le roi décède, puisque ses deux filles étaient à la fois protestantes et à la fois mariées à des princes protestants. Marie à Guillaume d'Orange et Anne au prince héritier de Danemark. D'ailleurs, nous allons écouter un extrait de la musique qui a été faite par Purcell pour les funérailles de la reine Marie. Mais un événement a bouleversé la succession au trône. En effet, le roi Jacques II épouse en seconde noces une princesse italienne, Marie de Modène. Or, un fils est né de cette union en 1688. Donc la situation est bouleversée. Le successeur de Jacques II allait être cet enfant catholique. Devant le danger papiste, beaucoup d'opposants s'unirent pour demander à Guillaume d'Orange, gendre du roi, de venir sauver le protestantisme anglais en s'emparant du trône. Guillaume, qui désirait disposer des ressources d'Angleterre au moment où il allait faire la guerre à la France, accepta. En novembre 1688, il débarque en Angleterre et ne rencontre aucune résistance. Affolé, Jacques II s'enfuit. Il part pour la France et il sera accueilli par Louis XIV, qui lui accorda le palais de Saint-Germain-en-Laye. Le Parlement constata le départ de Jacques II, affirmant le droit de la nation à se choisir un roi et refusant de prendre en considération les droits du fils de Jacques II, offrit la couronne à Guillaume et à sa femme Marie. Mais il leur imposa au préalable l'acceptation de la déclaration des droits. On y trouvait énumérées les illégalités dont Jacques II s'était rendu coupable, les droits du Parlement, tels qu'ils avaient été formulés déjà en 1628 et en 1641. Désormais, le souverain était tenu de réunir fréquemment le Parlement. Il ne pouvait suspendre les lois, ni dispenser une catégorie de citoyens d'agir selon la loi. Guillaume et Marie jurèrent la déclaration. Alors, ils furent proclamés roi et reine d'Angleterre sous les noms de Guillaume II et de Marie II. La déclaration des droits marquait la fin du conflit, qui avait mis aux prises pendant très longtemps le Parlement à la couronne, durant les dernières années du XVIe siècle et encore au XVIIe siècle. Le Parlement d'Angleterre l'emportait. On l'avait vu rejeter les droits de l'héritier légitime, puis de sa propre autorité offrir la couronne à Guillaume d'Orange. En même temps qu'une loi de tolérance en faveur des dissidents votée en 1689 accorda à ceux-ci l'entière liberté de culte tout en leur refusant encore le droit d'être fonctionnaire et de fréquenter les universités. Désormais, l'Angleterre ne fut plus troublée par les luttes religieuses entre protestants et catholiques. Aucune mesure ne fut prise en faveur de ceux-ci, mais dans la pratique, ils furent traités néanmoins avec moins de rigueur. Il faudra attendre une loi de 1832 pour qu'ils soient considérés de plein droit comme sujets britanniques. Cet événement est fondamental dans la mesure où il a effectivement constaté une victoire du Parlement. Nous avions déjà consacré une émission à cette lutte politique qui va pleinement prendre de l'importance au XVIIIe siècle. Les conflits majeurs que nous avons évoqués ont montré finalement que l'Angleterre était à la recherche d'une stabilité, à la fois maintenir la monarchie et garantir la représentation de la nation, comprenons au XVIIe et XVIIIe siècle les élites, par le biais du Parlement, Chambre des communes et Chambre des Lords. Un autre modèle, à côté du modèle Louis XIVien, s'organisait en Europe. Et pour l'élite libérale, tout au long du XVIIIe siècle, eh bien ce modèle de l'Angleterre, né de la glorieuse Révolution, allait faire son chemin. Des personnes comme Voltaire, comme Montesquieu, regardaient avec envie cette monarchie tempérée, cette monarchie parlementaire qui allait devenir de plus en plus parlementaire, puisque, à partir de 1707, aucune décision du Parlement ne sera contestée et verra mettre un veto de la part de la couronne. L'Angleterre, que nous connaissons encore aujourd'hui, est bien née à ce moment-là, au temps de la glorieuse Révolution.